1984. Deuxième partie. Chapitre 1. C'était le milieu de la matinée, et Winston était parti de la cabine pour aller aux toilettes. Une silhouette solitaire se dirigeait vers lui depuis l'autre bout du long couloir éclairé. C'était la fille aux cheveux noirs. 4 jours s'étaient écoulés depuis le soir où il l'avait croisée devant le magasin d'antiquités. Alors qu'elle s'approchait, il vit qu'elle avait le bras droit en écharpe. Cela ne se voyait pas à distance, parce que l'écharpe était de la même couleur que sa salopette. Sa main s'était probablement prise tandis qu'elle tournait autour de l'un des énormes kaléidoscopes sur lesquels s'obtenaient les brouillons des plans de romans. C'était un accident courant dans les départements de la fiction. Ils étaient peut-être à 4 mètres l'un de l'autre lorsque la jeune fille a trébuché et est tombée presque à plat sur le visage. La douleur lui arracha un cri aigu. Elle dut tomber directement sur le bras blessé. Winston s'arrêta net. La fille s'était mise à genoux. Son visage avait pris une couleur jaune laiteuse, sur laquelle sa bouche était plus rouge que jamais. Ses yeux fixaient les siens avec une expression de prière qui paraissait traduire plus de frayeur que de souffrance. Une curieuse émotion s'est emparée du cœur de Winston. Devant lui se trouvait un ennemi qui essayait de le tuer. Devant lui aussi était une créature humaine, dans la douleur et avec peut-être un os cassé. Déjà, il s'était instinctivement avancé pour l'aider. Quand il l'avait vu tomber sur son bras bandé, il avait cru sentir la douleur dans son propre corps. « Tu es blessé ?» dit-il. « Ce n'est rien. Mon bras. Ça ira mieux dans une seconde. » Elle parlait comme si son cœur battait la chamade. Elle était devenue très pâle. « Vous n'avez rien de cassé ?»« Non. Je vais bien. J'ai eu mal pendant un moment, c'est tout. » Elle lui tendit sa main libre et il l'aida à se relever. Elle avait retrouvé un peu de couleur et semblait aller beaucoup mieux. « Ce n'est rien, » répétait-elle brièvement. « Je me suis simplement un peu foulé le poignet. Merci, camarade. » Puis elle continua à marcher dans la direction qu'elle avait jusque-là suivie, aussi alerte que si rien ne s'était passé. L'incident avait duré moins d'une demi-minute. Ne pas laisser ses sentiments apparaître sur son visage était une habitude qui était devenue instinctive. Et, en tout cas, il se tenait debout juste devant un tel écran quand la chose s'est produite. Néanmoins, il avait été très difficile à Winston de ne pas trahir une surprise momentanée car, pendant les 2 ou 3 secondes qu'il avait employées à la relever, la fille lui avait glissé quelque chose dans la main. Il n'y avait pas de doute qu'elle l'avait fait intentionnellement. C'était quelque chose de petit et de plat. Alors qu'il passait la porte des toilettes, il la mit dans sa poche et le tâta avec le bout de ses doigts. C'était un bout de papier plié en 4. Alors qu'il se tenait devant l'urinoir, il réussit avec un peu de dextérité à le déplier. Il était évident qu'il devait y avoir un message quelconque écrit dessus. Pendant un instant, il fut tenté de l'emporter dans un des WC et de le lire tout de suite. Mais ce serait une folie déplacée, il le savait bien. C'était l'endroit où on était le plus certain d'être continuellement surveillé par les télécrans. Il retourna à son bureau, s'assit, jeta le bout de papier avec désinvolture parmi les autres papiers sur le bureau, mit ses lunettes et d'une secousse se rapprocha du télécran. 5 minutes, se dit-il, 5 minutes au bas mot. Son cœur battait dans sa poitrine avec un bruit effrayant. Heureusement, le travail qu'il avait en cours était un travail de simple routine. C'était la rectification d'une longue liste de chiffres qui ne nécessitait pas une attention particulière. Quoi qu'il ait été écrit sur le papier, il doit y avoir une sorte de signification politique. Autant qu'il pouvait en juger, il y avait 2 possibilités. La première, la plus probable, était que la fille était un agent de la police de la pensée, comme il le craignait. Ils ne savaient pas pourquoi la police de la pensée choisissait de délivrer leur message de cette manière, mais peut-être qu'ils avaient leur raison. La chose qui était écrite sur le papier pouvait être une menace, une sommation, un ordre de suicide, un traquenard quelconque. Mais il y avait une autre possibilité plus folle qui lui faisait relever la tête, bien qu'il essayât, mais vainement, de ne pas y penser. C'était que le message ne vint pas de la police de la pensée, mais de quelque organisation clandestine. Peut-être la fraternité existait-elle après tout. Peut-être la fille en faisait-elle partie. Sans doute l'idée était absurde, mais elle lui était venue à l'esprit au moment même où il avait senti le bout de papier dans sa main. Ce n'est que quelques minutes plus tard que l'autre explication plus probable lui est venue à l'idée. Et même à cet instant, alors que son intellect lui disait que le message signifiait probablement la mort, il n'y croyait pas et l'espoir déraisonnable persistait. Son cœur battait. Il arrivait difficilement à empêcher sa voix de trembler tandis qu'il murmurait des chiffres au phonoscript. Il enroula la liasse de son travail terminé et la fait glisser dans le tube pneumatique. 8 minutes s'étaient écoulées. Il réajusta ses lunettes sur le nez, soupira et rapprocha de lui le paquet de travail suivant sur lequel se trouvait le fragment de papier. Il l'aplatit. Il y était écrit d'une grande écriture maladroite. « Je t'aime ». Pendant plusieurs secondes, il était trop stupéfait pour jeter la chose incriminante dans le trou de mémoire. Quand il le fit, bien qu'il sût fort bien le danger de montrer trop d'intérêt, il ne put résister à l'envie de le relire, juste pour s'assurer que les mots étaient vraiment là. Pendant le reste de la matinée, il lui fut très difficile de travailler. Dissimuler son trouble au télécran était encore pire que de devoir concentrer son esprit sur une série d'emplois minutieux. Il avait l'impression qu'un feu brûlait dans son ventre. Déjeuner dans la cantine chaude, bondée et bruyante, était un tourment. Il avait espéré être seul pendant un instant à l'heure du déjeuner, mais la malchance voulut que cet imbécile de Parsons s'avachit à côté de lui. L'odeur de sa sueur dominait presque l'odeur métallique du ragoût, et il déversa un flot de paroles au sujet des préparatifs faits pour la semaine de la haine. Il était particulièrement enthousiaste à propos d'un modèle en papier mâché de la tête de Big Brother, de 2 mètres de large, qui était en cours de fabrication pour l'occasion par la troupe d'espions de sa fille. Ce qui était irritant, c'est que dans ce vacarme de voix, Winston n'entendait guère ce que Parsons disait et devait constamment lui demander de répéter quelques sottes remarques. Juste une fois, il aperçut la fille, à une table avec 2 autres filles au fond de la pièce. Elle semblait ne pas l'avoir vue, et il n'a plus regardé dans cette direction. L'après-midi fut plus supportable. Immédiatement après le déjeuner, il lui arriva un travail délicat et difficile qui lui prendrait plusieurs heures et nécessiterait qu'il mît tout le reste à part. Il consistait à falsifier une série de rapports de production d'il y avait 2 ans, de manière à jeter le discrédit sur un membre éminent du parti intérieur, qui était maintenant en disgrâce. C'était le genre de domaine dans lequel Winston était bon. Et pendant plus de 2 heures, il réussit à évacuer la fille de ses pensées. Puis le souvenir de son visage est revenu, et avec lui un désir rageur et intolérable d'être seul. Jusqu'à ce qu'il puisse être seul, il était impossible d'imaginer une autre issue. La soirée était une de celles qu'il passait au centre communautaire. Il engloutit un autre repas sans goût à la cantine, se dépêcha de se rendre au centre, prit part à la solennelle niaiserie d'une discussion de groupe, joua 2 parties de ping-pong, avala plusieurs verres de gin et lut pendant 1/2 heure un livre intitulé « Rapport entre l'anxoc et les échecs ». Son âme fut frappée d'ennui, mais pour une fois, il n'avait pas eu l'impulsion de se soustraire à la soirée au centre. À la vue des mots « je t'aime », le désir de rester en vie avait jailli en lui, et prendre des risques secondaires lui était soudain paru stupide. Ce n'est que 23 heures plus tard, quand il était à la maison et au lit, dans l'obscurité, hors de portée du télécran, tant qu'il se taisait, qu'il put enfin réfléchir tout à loisir. C'était un problème physique qu'il fallait résoudre. Comment prendre contact avec la fille et organiser une rencontre? Il ne pouvait plus envisager la possibilité qu'elle cherchât à lui tendre une sorte de piège. Il savait qu'il n'en était rien, à cause de l'agitation réelle qu'elle avait montrée en lui remettant le papier. De toute évidence, elle était effrayée autant qu'on puisse l'être. L'idée de lui refuser ses avances ne lui traversa même pas l'esprit. Il y avait seulement 5 nuits, il envisageait de lui fracasser le crâne avec un pavé. Mais cela n'avait aucune importance. Il pensait à son corps jeune et nu, comme il l'avait vu dans son rêve. Il avait cru qu'elle était une idiote comme toutes les autres, la tête remplie de mensonges et de haine, son ventre plein de glace. Une sorte de fièvre s'est emparée de lui à la pensée qu'il pourrait la perdre. Le corps jeune et blanc pourrait lui échapper. Ce qu'il craignait, par-dessus tout, c'était qu'elle change d'avis s'il ne prit pas contact avec elle rapidement. Mais la difficulté matérielle de la rencontre était énorme. C'était essayer de bouger un pion aux échecs alors qu'on est déjà échec et mat. Peu importe la façon dont vous vous êtes tourné, le télécran vous fait face. En réalité, toutes les manières possibles de communiquer avec elle lui étaient passées par l'esprit moins de 5 minutes après avoir lu la note. Mais maintenant qu'il avait le temps de réfléchir, il les examina l'une après l'autre comme une rangée d'instruments qu'il disposerait sur une table. De toute évidence, le type de rencontre qui s'était produit cette matinée ne peut pas être répété. Si elle travaillait au service des archives, cela aurait pu être relativement simple, mais il n'avait qu'une idée très vague de l'endroit où se trouvait le bâtiment du département de fiction. Et il n'avait aucun prétexte pour aller là-bas. S'il avait su où elle habitait et à quelle heure elle quittait son travail, il aurait pu s'arranger pour la retrouver quelque part sur le chemin du retour. Mais essayer de la suivre chez elle n'était pas sûr, car cela signifierait errer à l'extérieur du ministère, ce qui ne manquerait pas d'être remarqué. Quant à l'envoi d'une lettre par la poste, il n'en était pas question. Suivant une routine qui n'était même pas secrète, toutes les lettres étaient ouvertes en transit. En fait, peu de gens écrivaient des lettres. Pour les messages qu'on avait parfois besoin d'envoyer, il y avait des cartes postales sur lesquelles étaient imprimées de longues listes de phrases, et l'on biffait celles qui étaient inutiles. Dans tous les cas, sans compter son adresse, il ne savait pas le nom de la fille. Finalement, il décida que l'endroit le plus sûr était la cantine. S'il pouvait l'amener à une table toute seule quelque part au milieu de la pièce, pas trop près des télécrans et avec un brouhaha suffisant de conversation tout autour, si ces conditions duraient pendant, disons, 30 secondes, il pourrait être possible d'échanger quelques mots. Pendant la semaine qui suivit, la vie était comme un rêve éveillé. Le lendemain, elle n'apparut à la cantine qu'au moment où il la laissait. Le coup de sifflet avait déjà retenti. Ses heures de travail avaient peut-être changé. Ils se croisèrent sans un regard. Le deuxième jour, elle était à la cantine à l'heure habituelle, mais avec 3 autres filles, et immédiatement sous un télécran. Puis, pendant 3 horribles jours, elle n'apparut pas du tout. Tout son esprit et son corps semblaient être affligés d'une sensibilité insupportable, une sorte de transparence, qui faisait de chaque mouvement, chaque son, chaque contact, chaque mot qu'il a dû dire ou écouter, une agonie. Même en dormant, il n'a pas pu échapper à son image. Il ne toucha pas à son journal durant ces 3 jours. S'il y avait un soulagement, c'était dans son travail, grâce auquel il pouvait parfois l'oublier pendant 10 minutes d'affilée. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui lui était arrivé. Elle aurait pu être vaporisée. Elle aurait pu se suicider. Elle avait pu être transférée à l'autre bout de l'Océanie. Le pire et le plus probable de tout, elle avait pu simplement changer d'avis et décider de l'éviter. Le lendemain, elle réapparut. Son bras n'était plus en écharpe et elle avait un bandage autour du poignet. Le soulagement de la voir était si grand qu'il ne pouvait pas résister à la regarder directement pendant plusieurs secondes. Le jour suivant, il réussit presque à lui parler. Quand il vint à la cantine, elle était assise à une table loin du mur et était seule. Il était tôt, et l'endroit n'était pas très plein. La file d'attente avança jusqu'à ce que Winston soit presque au comptoir. Puis elle fut arrêtée une minute par quelqu'un qui se plaignait de n'avoir pas reçu sa tablette de saccharine. Mais la fille était encore seule quand Winston reçut son plateau et avança vers sa table. Il se dirigeait vers elle avec désinvolture, en cherchant des yeux une place à une table plus éloignée. Elle était peut-être à 3 mètres de lui. En 2 secondes, il y serait. Puis une voix derrière lui cria « Smith !» Il fit semblant de ne pas entendre. « Smith !» répéta la voix plus fort. C'était inutile. Il se retourna. Un jeune homme blond, au visage inintelligent, nommé Wilshire, qu'il connaissait à peine, l'invitait avec un sourire à occuper une place libre à sa table. Il n'était pas prudent de refuser. Il ne pouvait, ayant été reconnu, s'en aller s'asseoir à une table près d'une fille seule. C'était trop visible. Il s'assit avec un sourire amical. Le visage idiot du blond rayonnait devant le sien. Winston eut une vision de lui en train de fracasser à coups de pioche le visage de l'homme. La table de la fille se remplit en quelques minutes. Mais elle dut le voir venir vers elle et peut-être qu'elle comprit son intention. Le lendemain, il prit soin d'arriver tôt. Naturellement, elle était à une table à peu près au même endroit et de nouveau seule. Winston était précédé dans la queue par un petit homme scarabé au mouvement rapide, au visage plat, aux yeux minuscules et soupçonneux. Tandis que Winston s'éloignait du comptoir avec son plateau, il vit le petit homme se diriger tout droit vers la table de la fille. Son espoir, de nouveau, tomba. Il y avait une place libre à une table plus éloignée, mais quelque chose dans l'apparence du petit homme suggérait qu'il devait être assez attentif à son confort pour choisir la table la moins encombrée. Winston le suivit, le cœur glacé. Il y eut à ce moment un violent fracas. Le petit homme était étalé les 4 fers en l'air. Son plateau lui avait échappé, et 2 ruisseaux de soupe et de café coulaient sur le parquet. Il se remit sur pied, avec un regard méchant à l'adresse de Winston, qu'il soupçonnait de lui avoir fait un croc en jambe. Mais il n'en était rien. 5 secondes plus tard, le cœur battant, Winston était assis à la table de la fille. Il ne la regarda pas. Il déballa son plateau et s'empressa de commencer à manger. Il était important de parler tout de suite avant que quelqu'un d'autre ne vienne, mais une peur terrible s'était emparée de lui. 1 semaine s'était écoulée depuis qu'elle l'avait approché. Elle pouvait changer d'avis. Elle avait dû changer d'avis. Il était impossible que cette affaire se termine avec succès. De telles choses ne se produisent plus dans la vie réelle. Il aurait pu hésiter à parler si, à ce moment, il n'avait pas vu Ampleforth, le poète poilu, errant mollement dans la pièce avec un plateau, cherchant un endroit pour s'asseoir. À sa façon molle, Ampleforth était attaché à Winston et s'assoirait certainement à sa table s'il le voyait. Il avait peut-être 1 minute pour agir. Winston et la fille mangeaient tous 2 régulièrement. Ce qu'ils mangeaient était un ragoût léger, en fait une soupe de haricots. Dans un faible murmure, Winston commença à parler. Aucun d'eux ne leva les yeux. Ils portaient régulièrement à leur bouche des cuillerées de substances liquides et entre les cuillerées, échangeaient les quelques mots nécessaires d'une voix basse et inexpressive. « À quelle heure laissez-vous le travail ?»« À 6h30. »« Où pouvons-nous nous rencontrer ?»«
Au square de la Victoire, près du monument. »«
C'est plein de télécrans. »«
Peu importe, il y a foule. »«
Un signal ?»«
Non. » « Ne viens pas vers moi avant de m'avoir vu au milieu d'un groupe. Ne me regarde pas. Tiens-toi seulement près de moi. »«
Quelle heure ?»«
19h. »«
D'accord. »
Ampleforth n'a pas vu Winston et s'est assis à une autre table. Ils ne se sont pas reparlés, et pour autant que ce soit possible pour 2 personnes assises de part et d'autre de la même table, ils ne se sont pas regardés.
La jeune fille termina son déjeuner rapidement et s'enfuit, tandis que Winston restait pour fumer une cigarette. Winston se trouvait au square de la Victoire en avance.
Il se promenait à la base de l'énorme colonne cannelée, au sommet de laquelle la statue de Big Brother contemplait vers le sud, vers les cieux où il avait vaincu les avions eurasiens. Les avions est-asiatiques, c'était quelques années plus tôt, dans la bataille de la première région aérienne. Dans la rue qui se trouvait vis-à-vis de la colonne se dressait la statue d'un homme à cheval qui était censé représenter Olivier Cromwell. 5 minutes après l'heure fixée, la fille n'était toujours pas apparue. Une fois de plus, une terrible peur s'empara de Winston. Elle n'allait pas venir, elle avait changé d'avis. Il se dirigea lentement vers le côté nord du square et éprouva un vague plaisir à identifier l'église Saint-Martin, dont les cloches, quand elle en avait, avaient carillonné « Tu me dois 3 fartins ». Puis il vit la jeune fille se tenir au pied du monument, lisant ou faisant semblant de lire une affiche qui s'élevait en spirale autour de la colonne. Il n'était pas prudent de s'approcher d'elle tant que d'autres personnes ne s'étaient pas groupées. Il y avait des télécrans tout autour du fronton. Un vacarme de voix se fit entendre et il y eut quelque part sur la gauche un démarrage de lourds véhicules. Tout le monde se mit soudain à courir à travers le square. La fille coupa lestement autour des lions qui étaient à la base du monument et se joignit à la foule qui se précipitait. Winston suivit. Alors qu'il courait, quelques remarques jetées à haute voix lui firent comprendre qu'un convoi de prisonniers eurasiens passait. Déjà, une masse compacte de personnes bloquait le côté sud de la place. Winston, en temps normal, était le genre de personne qui gravite à l'extérieur de tout type de mêlée. Pourtant, cette fois-ci, il joua des coudes, de la tête, se glissa en avant au cœur de la foule. Il fut bientôt à une longueur de bras de la fille. Mais le chemin était bloqué par un énorme prolétaire et une femme presque aussi énorme, vraisemblablement sa femme, qui semblait former un mur de chair impénétrable. Winston, en se tortillant, se tourna sur le côté et d'un violent mouvement en avant s'arrangea pour passer son épaule entre eux. Pendant un instant, il eut l'impression que ses entrailles étaient broyées entre les deux hanches musclées, puis il les sépara et passa en transpirant un peu. Il était à côté de la jeune fille. Ils se trouvaient épaule contre épaule, tous deux regardaient fixement devant eux. Une longue rangée de camions portant, dressés à chaque coin, des gardes au visage de bois, armés de mitrailleuses, descendaient lentement la rue. Dans les camions, de petits hommes jaunes, vêtus d'uniformes verdâtres usés, étaient accroupis, serrés les uns contre les autres. Leurs tristes visages mongols, absolument indifférents, regardaient par-dessus les bords du camion. Parfois, au chaos d'un camion, il y avait un cliquetis de métal. Tous les prisonniers avaient des fers aux pieds. Des camions et des camions défilèrent chargés de visages mornes. Winston savait qu'ils étaient là, mais il ne les voyait que par intermittence. L'épaule de la jeune fille et son bras droit, nu jusqu'au coude, étaient pressés contre son bras. Sa joue était presque assez proche de la sienne pour qu'il en sentît la chaleur. Elle avait immédiatement pris en charge la situation exactement comme elle l'avait fait à la cantine. Elle commença à parler avec la même voix, sans expression qu'auparavant, avec les lèvres qui bougeaient à peine, un simple murmure facilement noyé par le vacarme des voix et le grondement des camions. « Vous m'entendez ?»«
Oui. »«
Pouvez-vous prendre votre dimanche après-midi ?»
Oui.
Alors écoute-moi bien. Tu dois te souvenir de ceci. Va à la gare de Paddington. Avec une sorte de précision militaire qui l'a étonné, elle traça la route qu'il devait suivre. Après une demi-heure de chemin de fer, tourne à gauche, à la sortie de la gare, 2 kilomètres plus loin, sur la route, un portail dont la barre supérieure est manquante, un chemin à travers un champ, un chemin herbeux, une piste entre les buissons, un arbre avec de la mousse. C'était comme si elle avait une carte dans la tête. Elle murmure enfin. « Peux-tu te souvenir de tout ça ?»«
Oui. »
« Tu tourneras à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, et la porte est celle qui n'a pas de barre supérieure. »«
Oui.
À quelle heure ?»« Environ 15 heures. »« Tu devras peut-être attendre. » J'y arriverai par un autre moyen. Tu es sûr de te souvenir de tout ?
Oui.
Alors éloigne-toi de moi aussi vite que possible. »
Elle n'avait pas besoin de le lui dire, mais pendant un instant, ils ne purent se dégager de la foule. Les camions défilaient encore et les gens insatiables regardaient bouche bée. Il y avait eu au début quelques huées et quelques coups de sifflet. Mais ils venaient de membres du parti qui étaient dans la foule et s'étaient bientôt arrêtés. Le sentiment qui dominait était une simple curiosité. Les étrangers, qu'ils fussent eurasiens ou estasiens, étaient comme des animaux inconnus. On ne les voyait littéralement jamais si ce n'était sous l'aspect de prisonniers. Et même alors, on n'en avait jamais qu'une vision fugitive. On ne savait pas non plus ce qu'ils devenaient, à part les rares qui ont été pendus comme criminels de guerre. Les autres ont simplement disparu, vraisemblablement dans les camps de travail forcé. Aux ronds visages mongols avaient succédé des visages de type plus européen, sales, barbus et épuisés. Depuis des pommettes bien rabougries, les yeux regardaient ceux de Winston, parfois avec d'étranges intensités, puis se détournaient. Le convoi tirait à sa fin. Dans le dernier camion, il put voir un vieil homme, avec une masse de cheveux grisonnants, se tenir debout avec les poignets devant lui, comme s'il était habitué à les avoir liés entre eux. Il était temps pour Winston et la fille de se séparer. Mais au dernier moment, pendant qu'ils étaient encore cernés par la foule, la main de la fille chercha celle de Winston et la pressa rapidement. Cela ne dura peut-être que 10 secondes, et pourtant leurs mains semblaient rester jointes très longtemps. Il avait eu le temps d'apprendre chaque détail de sa main. Il explora les longs doigts, les ongles bien formés, la paume endurcie par le travail avec ses lignes calleuses, la chair lisse sous le poignet. Pour l'avoir simplement touchée, il pourrait la reconnaître en la voyant. Il pensa au même instant qu'il ne connaissait pas la couleur des yeux de la fille. Ils étaient probablement bruns, mais les gens aux cheveux foncés avaient parfois les yeux bleus. Lui faire tourner la tête et la regarder aurait été une folie inconcevable. Avec les mains jointes, invisibles parmi les corps serrés, ils regardaient droit devant eux. Et au lieu des yeux de la jeune fille, ce furent les yeux du vieux prisonnier qui se posèrent avec tristesse sur Winston.